BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Vous êtes au cœur de l'émission qui s'occupe de votre argent, de vos finances personnelles, qui vous aide à devenir meilleur investisseur, que vous ayez déjà un capital ou que vous cherchiez à en construire un. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web tous les jours, de 10h à midi, et puis vous le savez, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, en podcast. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent en dehors de nos frontières françaises. Au programme de l'heure à venir, nous allons parler immobilier avec nos experts. Olivier Principal, le président de la FNAIM du Grand Paris, et Virgile Grollo, notre consoeur de Challenge, vont nous rejoindre avec Marie-Cœur de Roy pour discuter de comment encourager ou ré-encourager l'investissement locatif. On parlera de la fin du Pinel, on parlera des perspectives dans le neuf, et on se demandera aussi ce qu'il faut penser de Normandie. Au programme, plein d'autres choses. On fera le point en fin d'émission sur les matières premières, pétrole, cuivre et argent, avec Benjamin Louvet, d'Ophi Invest AM, qui va nous expliquer pourquoi la tonne de cuivre à 12 000 $, c'est possible. Avant ça, nous passons une tête chez Antoine du côté d'Euronext, pour faire le point sur la séance en cours du côté du CAC 40. Cher Antoine, on vous retrouve, on reste en hausse hein, à l'approche de la mi-journée. Mais bon, ça arbitre encore sec, si je puis dire, autour des résultats d'entreprise.
Oui, du coup, c'est un petit peu laborieux hein, du côté d'un CAC 40 qui gagne, on va dire, 0,29%. On est à 8039 points. Surperformance très très nette de l'Euronext Tech Leaders, l'indice riche en valeurs technologiques, plus 1,4%, mais là on est dans le sillage vraiment très positif, des très bons résultats. Vous en avez parlé de Microsoft et de Google. On a l'Eurostock 50 qui gagne 0,6%, quasiment 0,8% pour le DAX à Francfort qui est un petit peu décidé, et puis on a aussi l'impact positif des publications du jour, même si on sent les marchés quand même relativement prudents, avec des arbitrages multiples hein, qui s'organise sur plusieurs jours, on l'a dit tout à l'heure, on revient sur certains dossiers, on en met certains de côté. En tout cas, il y a un secteur qui signe vraiment d'excellentes performances, et vous en parlez aussi ce matin, ce sont les matières premières, les titres liés aux matières premières. Regardez Saint-Gobain qui gagne 5,5% à 74,32€, avec de très bons trimestriels qui ont été publiés hier soir après bourse. Mais on a ArcelorMittal qui se tient bien aussi, plus 1,7% à 23,93€. Et la plus forte hausse du SBF 120, elle est pour Eramet, qui est en hausse de 10,6% à 87,75€, et Eramet qui rehausse même l'ensemble de ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Bon résultat aussi pour Amundi qui gagne 7,2%, on est à 68,25€. En revanche, on a quelques déceptions à noter. Safran qui est arbitré à la baisse hein, malgré ses trimestriels, moins 1,25% à 204,90€. Déception aussi sur ceux d'Airbus qui recule de 2,4% à 154,76€. Et puis on a toujours Eurofin Scientifique dans le sillage de sa publication qui est quand même en forte baisse sur l'ensemble de la semaine. Le titre perd 1,4% à 56,66. Grosse déception aussi sur les résultats d'Alten qui signe la plus forte baisse du SBF 120 à moins 6%. On est à 121,10. Le CAC 40 donc plus 0,28, 8039 points et l'euro 1,0743. Lorraine.
C'est l'heure de votre histoire, Antoine, et on va parler crypto.
Tout pour investir, l'histoire d'Antoine.
Nous allons parler crypto et puces. Pourquoi ? Parce que Jack Dorsey, le vrai fondateur de Twitter, eh bien, veut rien que révolutionner le secteur des puces et du minage avec de nouveaux systèmes et de nouvelles architectures. Racontez-nous ce que ça veut dire.
Oui, parce que en fait, il en va de l'industrie des crypto-monnaies, du minage, comme il en va de l'intelligence artificielle, comme il en va de beaucoup de secteurs. À savoir que si vous ouvrez les armoires de serveurs de n'importe quelle usine de minage Bitcoin, par exemple, qu'est-ce que vous trouvez ? Des racks entiers de cartes graphiques GeForce RTX de chez Nvidia. Il n'y a que ça. C'est l'Air Jordan de tout un tas de secteurs d'activité, hein, c'est-à-dire ce qui se fait de meilleur avec le meilleur rapport coût-capacité de calcul. Eh bien, Jack Dorsey veut progressivement réduire cette Nvidia dépendance, toujours très très forte, au sein de l'industrie crypto. Il faut savoir d'ailleurs qu'Nvidia avait mis au point, il y a quelques années, des produits spéciaux qui étaient vraiment consacrés aux cryptos en voyant que l'industrie crypto se mettait à piocher dans les banques d'organes des gamers et d'autres secteurs d'activité parce que les cartes graphiques, c'était ce qu'il y avait de plus puissant pour calculer les capacités de minage. Maintenant, ça avait été abandonné parce que Nvidia ne voulait pas mettre de sous dedans. Hein, les perspectives de l'industrie crypto à l'époque étaient quand même pas très très porteuses. Et puis, il y a eu l'ouragan de l'intelligence artificielle qui a vraiment réorienté la société. Mais la boîte de Jack Dorsey, Block, vient de présenter alors un système entier d'architecture spécialisée dans le minage, organisé alors autour d'une puce magique qu'ils ont commencé à concevoir il y a un an et qui va rapidement être mise en production. Alors, chez un fondeur réputé, dit Block, sans plus de précision pour le moment. Une puce 3 nanomètres qui est plus efficace, qui est plus rapide et moins consommatrice d'énergie que la puce standard du chinois Bitmain qui fait référence à 5 nanomètres. Et vraiment, Jack Dorsey veut raisonner en architecte. Un peu comme ARM, on ne vous vend pas simplement une puce, on vous vend la technologie, le système complet de minage. Tout ça arrive après un travail complexe de recueil des besoins chez les grands mineurs qui ont besoin d'urgence de nouveaux systèmes plus précis, plus rapides, d'autant que le halving vient de diviser quand même par deux leur rémunération en bitcoin pour chaque bloc produit. Ils ont donc besoin de produire plus vite et en plus grande quantité pour conserver leur rentabilité.
Merci Antoine pour cette histoire. Voilà, Jack Dorsey qui veut révolutionner le minage, on l'entend, avec des nouveaux systèmes, mais surtout des nouvelles architectures. Cette histoire est à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. Antoine, on vous retrouve plus tard pour continuer de surveiller ce qui se passe du côté de notre CAC 40 qui évolue toujours au-dessus des 8000 points à 8036 points. C'est le temps de parler immobilier. Le vendredi, une demi-heure d'expertise réunie, du jus de cerveau pour faire le point sur le secteur immo. On va parler logement, on va parler DPE, on va parler neuf. On va même parler Pinel, vous voyez. C'est dans quelques minutes. Vous voulez réagir et participer à cette séquence, ça se passe à l'adresse directe @bfmbusiness.fr, mais ça se passe aussi sur LinkedIn. Vous pouvez m'écrire en message privé, je vous lis, comme Guillaume, Mathieu ou Jean-Yves. À tout de suite.
Tout pour investir, les experts de l'immo.
On s'occupe d'immobilier tous les jours, bien sûr, à 11h15 dans Tout pour investir. Mais le vendredi, ça ne dure pas un quart d'heure, ça dure une demi-heure.
Il y en a plus.
Il y en a plus. Marie Cœur de Roy nous a rejoint. Bonjour, chère Marie.
Bonjour, Lorraine. Bonjour à tous.
Nous ne sommes pas seuls. Notre consoeur de Challenge est avec nous. Bonjour, Virginie Grelot.
Bonjour.
Vous êtes chef de la rubrique immobilier chez Challenge. Et puis, nous ne sommes pas contre femmes. Olivier Principal est avec nous. Bonjour, Olivier.
Bonjour, mesdames.
Vous êtes le président de la FNAIM du Grand Paris. Sans surprise, nous allons parler de la crise du marché locatif pour démarrer, mais plein d'autres choses pendant une demi-heure. On est connecté, on est branché avec vous, chers auditeurs. Vous voulez réagir, participer à cette antenne, vous connaissez les adresses, direct@bfmbusiness.fr ou même sur LinkedIn, je suis connectée, je vous lis. Marie, cette crise du marché locatif, nous avons le regard de nos experts pour faire le point fin avril, là. Peut-être quelques frémissements de nouvelles.
C'est la question qu'on se pose, c'est-à-dire qu'on a des frémissements sur le marché de la transaction, on en parlera, mais justement la première question qu'on se pose, c'est est-ce que du coup ça a une incidence positive sur ce marché locatif qu'on s'est particulièrement tendu depuis, j'ai envie de dire quelques mois, voire quelques années, c'est juste qu'on en parle un peu plus depuis la rentrée de septembre. Bref, le fait est qu'on était sur une crise sans précédent du marché locatif, extrêmement tendue. Elle existe encore cette crise, Olivier, ou pas? Elle va mieux? Et si elle est toujours là, à quoi est-elle due?
La crise, on peut dire qu'elle va bien parce qu'elle est toujours là.
La crise va bien.
Oui, la crise va bien. C'est-à-dire que ça s'est amplifié. On n'a toujours pas de desserrage du marché. Il n'y a pas plus d'offres sur le marché.
Il n'y a pas plus de
locataires qui trouvent un logement. On n'a pas de congés qui sont délivrés par les locataires en place qui veulent.
Vous regardez le turnover, ça, justement, en fait?
Non, en ce moment, il n'y en a plus. On n'en a plus.
C'est-à-dire les locataires qui sont en place ne bougent plus, quoi?
Non. Non, non. On reste chez soi. On reste chez soi pour des raisons évidentes. On ne trouve pas autre chose à louer. On n'a encore pas l'accompagnement nécessaire pour aller acheter un bien immobilier. Donc, on est sur un système protectoral. On reste où on est et on attend que ça se décoince.
Et l'offre, justement, vous parliez de cette offre, c'est-à-dire cette demande, évidemment, elle n'a pas cessé, elle ne s'est pas détendue. Est-ce qu'il n'y a pas un peu plus d'offres aussi? Est-ce que l'investissement locatif n'est pas un peu revenu avec les assouplissements du côté des banques, avec peut-être cette envie d'investir dans la pierre qui pourrait être de retour? Est-ce qu'il y a encore des freins à cet investissement locatif?
Je pense que rien n'a changé. Alors je suis désolé de le dire parce qu'on le constate tous les jours et c'est malheureux. En réalité, on a un calendrier qui est de plus en plus contraint. Les Jeux Olympiques, c'est demain. Donc en fait,
c'est dans trois mois.
ne stressez pas tout le monde.
D'accord. Bon, je dis c'est demain parce que en termes de mouvement dans un logement, on a aujourd'hui des logements qui se libèrent et qui restent en attente d'éventuelles locations de courte durée pour les Jeux Olympiques. On n'a pas créé de nouveaux logements, donc il n'y a pas une meilleure offre. Et on a toujours le calendrier de la réglementation énergétique, les travaux qui frappent les logements d'indécence, qui eux arrivent au 1er janvier 2025, donc c'est très proche. Donc en réalité, on a toujours cette contraction de tout un tas de sujets qui crispent les bailleurs et on n'a pas de dispositif d'aide à l'investissement locatif ou d'avantage fiscal, quelque chose qui permettrait de faire revenir sur le marché des investisseurs. Par contre, il y a une chose qui explose, c'est la vacance des logements. Et donc du coup, là, c'est sonnette d'alarme, il va falloir sérieusement faire quelque chose.
Bon, et justement sur cette crise de l'investissement locatif, alors après, moi je pense qu'il y a débat, hein, mais il y a un sujet que beaucoup, dont la FNIM, mais vous n'êtes pas les seuls, ont quand même pointé du doigt sur le fait qu'on investissait de moins en moins, et a fortiori dans des villes soumises à l'encadrement des loyers. On a eu cette semaine des chiffres, Virginie, sur les effets de l'encadrement des loyers. Alors, non pas sur les propriétaires bailleurs, mais bien sur les locataires eux-mêmes. Et là, a priori, force est de constater que c'est plutôt des effets positifs, non ?
On parle d'économie ?
On parle d'économie, effectivement. C'est une étude alors de l'Atelier parisien d'urbanisme, de l'Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne, du groupe Se Loger et du groupe de recherche Césaire. Tous ces gens se sont réunis, ont travaillé et ont estimé qu'entre 2019 et 2023, l'encadrement des loyers, la mise en place sur Paris, je ne parle que de Paris, aurait permis d'éviter une hausse des loyers de 4,2%. Et sachant que en début de période, on était plutôt à moins 2,5% entre 2019 et 2020 et moins 5,9% entre 2022 et 2023. Donc, lycée, ça fait moins 4,2. Moins 4,2, ça fait 64 euros d'économie par mois pour les locataires, soit quasiment 800 euros par an.
Bon. Ouais, c'est pas rien quand même.
C'est pas rien, mais c'est pas ça qui va faciliter, je trouve, effectivement, la mobilité des locataires.
Mais Virginie, vous pensez pas là qu'en l'occurrence, c'est quand même un effet positif de l'encadrement ?
De payer un peu moins, forcément.
C'était le but,
pour ceux qui payent moins, oui. Mais est-ce que ça a amélioré globalement la situation et le confort des locataires ? J'en suis pas persuadée, puisque de toute façon, cette mesure n'a aucun effet sur l'offre, si ce n'est au contraire, chez les plus récalcitrants, de la réduire. Il faut savoir quand même qu'en plus, aujourd'hui, 38% des annonces sont en dehors des clous, c'est-à-dire du plafonnement, dans la mesure où, en faisant appel à un complément de loyer, on dépasse
le niveau. Parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on peut faire appel à un complément.
Parce qu'il y a tous ces critères. Alors, ça peut être avoir un balcon, ça peut être avoir une vue sur la Tour Eiffel.
Un jacuzzi.
voilà, par exemple. Et que ça n'a pas d'impact sur la masse globale. Alors, la mairie de Paris, elle, se déclare évidemment très satisfaite, hein, puisque elle considère que les locataires ont bénéficié effectivement d'une augmentation moins élevé que prévu des loyers, puisque les loyers ont quand même un peu augmenté, mais c'est moins que prévu. Et en tout cas, les locataires, je pense, ne sont pas forcément beaucoup mieux logés, malgré ce dispositif d'encadrement des loyers.
Olivier, c'est votre avis aussi ? J'imagine que oui, hein, mais...
Il y a un chiffre qui ne trompe pas, c'est que sur les 5 dernières années, c'est-à-dire depuis la création de l'encadrement des loyers, les loyers ont augmenté de 7%. Enfin, un peu plus de 7%. Donc en réalité, les loyers, ils ont continué à augmenter. Donc, on peut toujours se gargariser de dire que ça a augmenté moins que prévu. Ce qui est logique, on a créé une loi dans laquelle on met des loyers fixés à la baisse. Donc, mécaniquement, c'est le cas. Je rappelle aussi que depuis 2014, entre deux locations, vous n'avez pas le droit
de. Il y a l'encadrement à la relocation.
Voilà. Ouais. Et les augmentations de loyers sont encadrées uniquement par l'indice de révision des loyers, qui lui-même, sur les deux dernières années, a été plafonné.
Bon.
Moi, ce que je peux noter, et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'explosion de la vacance locative, c'est que c'est très joli de dire qu'on a limité l'augmentation des loyers, mais on a fait exploser la vacance locative.
C'est-à-dire, en gros, on a dissuadé des propriétaires.
Dissuadé les bailleurs d'aller acheter. Il vous faut 40 ans pour amortir un appartement. C'est-à-dire, vous achetez un appartement cher, vous vous dites, bah, tiens, mon loyer va peut-être pas couvrir la totalité du crédit, mais ça va me permettre quand même de le couvrir. Et puis du jour au lendemain, on vous met l'encadrement des loyers qui vous fait perdre 20% de cet investissement. Ça vous rallonge votre retour sur investissement d'une dizaine ou d'une quinzaine d'années. Mais enfin, c'est un sketch. Comment vous iriez investir dans un marché aussi tendu que le marché parisien où les prix sont extrêmement élevés même
Je suis désolée, je vous interromps, Olivier, parce que là, sinon, on va tous aller dans le même sens et c'est pas drôle. Mais à un moment donné, les prix parisiens sont tels et depuis bien avant l'encadrement des loyers que quand on faisait un investissement locatif à Paris, on ne visait pas le rendement. Jamais les investisseurs à Paris n'ont visé le rendement. Ils visaient la plus-value en sortie, parce qu'ils savent que pour le coup, acheter à Paris, c'est c'est pas un sujet de rendement, c'est pas un sujet, c'est un sujet de plus-value à moyen long terme, mais pas de rendement à court terme.
Vous avez raison, Marie, mais jusqu'alors, on avait des investisseurs institutionnels, ce qu'on appelait les zinzins, et aujourd'hui, il n'y en a plus. En réalité, on a dissuadé toute idée d'investissement locatif. Et comme on ne crée pas de logements à Paris, on ne surélève pas, on ne construit pas dans d'autres espaces, on ne densifie pas, il se passe quoi ? Mais il se passe rien.
Donc ça veut dire quoi ? Pour vous, là, si je vous regarde tous les deux, la réglementation tue le marché locatif ?
L'excès de réglementation, en tout cas, contrecarre grandement le marché locatif.
Mais c'est donc difficile de ménager la chèvre et le chou, à vous entendre. Je veux dire, à un moment, il faut soit aider les locataires, soit aider les propriétaires.
Oui.
Là, on parle de la mairie de Paris, on n'est pas là pour faire de la politique, mais l'effet de l'encadrement des loyers, on le voit, il est, à vous entendre, moyennement bénéficiaire pour les locataires et il est carrément castrateur pour les potentiels ou les ex-investisseurs.
Mais on peut aider les deux.
En faisant quoi ?
C'est pas soit le locataire, soit le bailleur. En réalité, on est sur un marché d'habitat. On sait bien que nos investisseurs qui achètent des logements, ils ont...
Oui, mais je rejoins Lorraine. En faisant quoi, Olivier ? En faisant quoi ?
Mais par exemple, plutôt que de mettre en place un encadrement de loyer, on a eu des dispositifs qui étaient très performants. Vous prenez ce qu'on appelle le cellier intermédiaire, le cellier social. Vous aviez un avantage fiscal où vous étiez, vous aviez 30% d'abattement sur vos revenus locatifs à partir du moment où votre loyer était inférieur au prix du marché.
Mais ça existe toujours. Il y a toujours des dispositifs pour bénéficier davantage.
Cherchez dans Paris où est-ce que vous pouvez le faire. Ça n'existe pas.
Bah parce que vous considérez que les plafonds de loyer qui, dans ces cas-là, doivent être respectés, sont pas assez attractifs pour les propriétaires bailleurs, mais ils auraient des ristournes fiscales s'ils acceptaient de baisser les loyers, ça existe.
Non seulement c'est pas attractif, c'est intéressant pour le locataire. Moi, j'ai pas de sujet, je veux dire, à un moment donné, le loyer explose, qu'on essaie de trouver des dispositifs. C'est bien de plafonner les loyers, mais si on ne traite pas la cause, c'est-à-dire la capacité de faire un vrai choc d'offre que nous annoncent tous les ministres et le Premier ministre.
Depuis 2017.
Et pour l'instant, les chiffres sont pas vraiment très choquants, mais en l'occurrence, il y a un moment donné, si on règle pas ce problème-là, on n'y arrivera pas. Donc, il faut inciter le bailleur à contrôler son prix à la hausse pour que le locataire en bénéficie et que le bailleur se dise fiscalement ça me coûte la même chose, autant louer un petit peu moins cher. Je veux dire. Mais il faut que l'État accepte de dire qu'à un moment donné, le logement est une priorité, on a besoin d'apporter ce service que les pouvoirs publics ne peuvent pas porter de leur côté avec la construction et le marché social. Donc à un moment donné, il faut y aller.
Je peux pas m'en empêcher, je voulais vous parler, je vous l'avais dit dans la préparation de l'émission, je voulais vous parler de l'exemple argentin. On s'est fait interpeller sur les réseaux sociaux. Moi, ça me met en colère. Mais bref, on va reciter l'exemple argentin avec Javier Milei qui a décidé de complètement défoncer toute réglementation du marché locatif.
Marie, et ça s'est joué. Défoncer son micro.
Exactement.
Calmez-vous.
Et donc, à Buenos Aires, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire qu'on a dit c'est open bar pour tous les propriétaires. Donc ça, c'est depuis décembre, janvier dernier. C'est open bar pour tous les propriétaires. Ils peuvent pratiquer les loyers qu'ils souhaitent, être payés comme ils le souhaitent, avoir des contrats comme ils le souhaitent, virer les gars comme ils le souhaitent. C'était open bar pour les propriétaires bailleurs. En dérégulant, tout le monde espérait, effectivement, c'était la théorie de Javier Milei, que effectivement, on aperçoive un surenchérissement de l'offre locative de biens à louer à Buenos Aires et potentiellement une baisse des loyers. Bah, force est de constater qu'effectivement, là, les derniers chiffres nous montrent qu'il y a trois fois plus d'offres de logements à louer à Buenos Aires et que les loyers commencent à baisser. Pas de manière spectaculaire, mais ils commencent à baisser. Est-ce que ça veut dire que l'exemple argentin, la dérégulation totale, c'est la solution face à une crise du marché locatif ?
Non, c'est pas forcément la solution, mais on voit effectivement, là, tout d'un coup, zéro réglementation. Forcément, les propriétaires sont revenus en masse et à partir du moment où vous avez beaucoup d'offres, et bien les prix baissent. Bon, bah c'est d'une logique économique de base. Il va y avoir sûrement derrière peut-être d'autres ajustements. Mais entre tout et rien,
la nuance,
forcément un juste milieu. Et il faut un pilotage un peu plus fin, sans doute, pour protéger certains locataires qui en ont besoin, accorder un peu plus de souplesse ou peut-être un aménagement fiscal ou en tout cas des règles de gestion plus souples puisque peut-être qu'aujourd'hui le 3-6-9 comme on le voit dans les bureaux, c'est plus tout à fait ce que les gens recherchent. On a vu l'explosion du meublé, là on voit les explosions des courtes durées puisque l'idée c'était de libérer les logements pour les Jeux Olympiques. Donc on voit bien que de toute façon les propriétaires ont cherché tout
systématiquement
les portes de sortie qu'ils peuvent prendre. Donc à un moment quand on constate que ça n'est que ça, eh ben il y a un problème.
Donc c'est faire preuve de nuance, c'est-à-dire l'exemple argentin c'est peut-être pas la panacée non plus.
Je pense pas que ce soit la panacée parce que c'est très temporaire là, c'est juste les premiers mois de cette dérégulation et on verra bien.
On a un pays en crise structurellement aussi depuis des décennies avec quand même des gros problèmes d'inflation etc.
C'est faut pas, je pense qu'il faut pas comparer Paris et Buenos Aires, ça n'a aucun rapport. Mais il y a sûrement, en tout cas, forcément, un moyen par la discussion, par la négociation, de trouver des solutions pour être entre tout et rien.
Olivier ?
Moi, je suis complètement d'accord. On en parlait tout à l'heure. En fait, on en met tellement sur les propriétaires immobiliers que ça ne présente plus d'intérêt d'y aller. Donc, il faut arrêter l'accumulation de contraintes réglementaires et techniques. Il faut libérer, donner un bol d'air au marché immobilier. Et d'ailleurs, ce qui se passe sur Paris n'est pas nécessairement ce qu'on voit en première ou en deuxième couronne en Île-de-France. Moi qui viens de Seine-Saint-Denis et qui travaille désormais sur Paris intramuros, c'est deux marchés différents. Je veux dire, quand vous avez du logement disponible parce qu'on construit, parce qu'on transforme et qu'on met à disposition du logement, eh bien, vous faites plusieurs visites avant de louer. Vous avez la liberté de choisir. Sur Paris,
c'est la guerre.
C'est la jungle. C'est la jungle.
Bon, et puis on arrête ça. Et puis quand même, pour conclure sur ce débat sur le modèle, et je mets de gros guillemets argentin, je rappelle qu'il y a des effets de bord quand même, et que si effectivement les loyers commencent à baisser parce qu'on a eu un surenchérissement de l'offre, c'est aussi parce qu'on a beaucoup de locataires argentins qui ont soit quitté la ville de Buenos Aires pour aller ailleurs, soit se sont retrouvés à la rue. Et donc maintenant, on a des propriétaires bailleurs qui, certes, ont les mains libres pour louer comme ils veulent, encore faut-il qu'ils trouvent des locataires, d'où le fait qu'ils baissent les loyers. Donc encore une fois, oui, il y a des marchés qui s'autorégulent, quasiment tous de mon point de vue, y compris celui de l'immobilier et du logement, mais à quel prix ? C'est toujours la question qu'il faut se poser. Et là, c'est sans doute au prix de beaucoup de locataires pauvres. Voilà. C'est juste
la déréglementation de l'IMO en Argentine. Comparaison terminée avec ce qui se passe chez nous en France. Olivier Principal de la FNAIM du Grand Paris. Et votre éclairage grand parisien va nous aider dans la deuxième partie de l'émission. Virginie Grollo de Challenge et puis Marie Cœur de Roy au service des sujets immobiliers à suivre dans Tout pour investir. On marque une rapide publicité, quelques minutes. Et après, on continue à réfléchir à comment quoi encourager ou réencourager l'investissement locatif. On parlera du Pinel et on parlera aussi, et bien, des copropriétés. Ça se dégrade, hein ? On va prendre le pouls. À tout de suite.
Tout pour investir. Les experts de l'IMO.
Les pipelettes de l'IMO. Je peux vous dire que pendant la pub, ça parle. Alors, nous sommes en train de faire le bilan. Réfléchir à comment on peut encourager ou réencourager l'investissement locatif. Marie, à vous.
Bah, c'est pas de mal la veille qu'on aura notre fameux statut du bailleur privé qu'on attend, on attend, on attend. D'ici là, on sait qu'on va perdre le Pinel dans le neuf. Et j'ai envie de dire, je l'ai teasé un peu comme ça hors antenne, mais je vais vous le faire, le Pinel va mourir, vive le De Normandie. C'est ça un peu l'idée, Olivier. Et alors, on va rappeler ce que c'est que le De Normandie aussi au passage.
Le De Normandie, ça reste un dispositif d'aide à l'investissement dans les biens rénovés, donc des biens anciens, rénovés, de qualité. Donc c'est un dispositif d'incitation, donc on va dire il est bienvenu, il existait, il s'étend un peu, super. Très bien.
Moi, peux en faire où du De Normandie aujourd'hui, Olivier ?
Alors, initialement, c'était dans les cœurs de ville. Il y avait 200 cœurs de ville en France. C'était des villes, donc pas des métropoles.
Pas des grosses, vraiment, des grosses villes sous tension.
Non, mais en tout cas, ça avait le mérite d'être une expérimentation intéressante sur ces 200 cœurs de ville. Nous, immédiatement, quand on a vu le dispositif, qui était en fait un peu la prolongation de ce qu'on avait à l'époque sur le Borloo et le Besson, c'était une façon d'attirer les investisseurs vers des marchés plus difficiles que le neuf, qui est l'ancien à réhabiliter.
Et donc, c'est une sorte de Pinel ancien, en fait.
Oui. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Amortissement, déduction fiscale. Donc, ça permettait d'attirer du monde. Et plutôt que d'avoir des logements qui restaient cristallisés sur des mauvaises normes ou une mauvaise performance énergétique, on arrivait sur quelque chose de sympa. Donc, on contribuait à cette rénovation globale.
Vous parlez au passé ?
La problématique, c'est que ces dispositifs, pour qu'ils soient efficaces, il faut arriver à les étendre et pas seulement à des micro-marchés. Je veux dire, aujourd'hui, notre crise, elle est multifactorielle, elle est sur l'ensemble du territoire national. Et à un moment donné, si quelque chose fonctionne bien, étendons-le un grand coup, quitte à ce que ça soit sur une période un peu courte, mais au moins, on redonne le bol d'air qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, il faut pousser ces dispositifs.
La proposition, c'est de dire, il faut accorder des ristournes fiscales à ceux qui promettent d'investir, de mettre à la location des biens qu'ils s'engagent à rénover. C'est ça que vous dites ? Partout.
Il faut accompagner fiscalement les personnes qui prennent le risque d'acheter un bien immobilier, d'assumer des travaux pour le mettre à disposition des locataires.
En parlant d'accompagnement, je rebondis sur le message que François, notre auditeur, vient de nous envoyer. Il nous dit, pour encourager l'investissement locatif, en parlant d'accompagnement, les promoteurs devraient peut-être étudier des formes d'ateliers collectifs pour permettre aux acquéreurs dans l'ancien de mieux se projeter. C'est ce qu'il manque, il trouve, notre auditeur François. Se projeter, manque de transparence côté offre pour rassurer la demande. Accompagner, mais pas que financièrement.
Oui, alors après, je suis tout à fait d'accord. Je pense que les promoteurs ont quand même, alors je ne sais pas ce qu'en pense Virginie, mais les promoteurs sont quand même beaucoup impliqués là-dedans pour essayer justement avec la visualisation en 3D quand on achète, parce que j'imagine qu'ils parlent de ça. C'est-à-dire quand je vis dans l'ancien, comment me projeter quand ils parlent de promoteurs, donc sur le neuf. J'imagine, hein, je ne sais pas François si je dis une grosse bêtise ou si j'ai mal lu, mais l'enjeu c'est quand même effectivement de pouvoir se projeter dans le neuf pour pouvoir essayer de passer à l'acte. Je ne sais pas ce qu'en pense Virginie, mais j'ai le sentiment quand même qu'il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui sont à la disposition des potentiels acheteurs pour se projeter un tout petit peu quand même. Mmh.
Oui. Et puis de toute façon, la règle d'or, j'allais dire, c'est l'emplacement. Et après, il faut regarder effectivement ce qu'on achète. C'est-à-dire, si on achète un rez-de-chaussée sur cour, bah, ça ne va peut-être pas être hyper sexy comparé à un dernier étage avec le gentil balcon qui va bien. Mais ça, c'est des règles de base de l'immobilier. Je pense qu'il faut plus d'accompagnement aussi sur l'ensemble du process, c'est-à-dire comment on rédige un bail, comment ça va se passer, la mise en copropriété, etc., etc. C'est un peu plus global que ça, et ça, effectivement, peut-être
c'est-à-dire
que
pour
certains
l'achat, puis la mise en location, enfin, avoir
l'achat,
un accompagnement
puis la mise
de
en location. Souvent, c'est d'ailleurs les promoteurs, sont des agences immobilières qui vont sélectionner le bailleur, le locataire, et accompagner, faire toute la recherche du locataire, vérifier sa solvabilité, et s'occuper du contrat de bail. Donc, il y a quand même un accompagnement, peut-être qui peut être jugé insuffisant, mais qui est réel
quand même.
Qui existe
quand même. Bon, Virginie,
qui est payant aussi, souvent.
En attendant, c'est quand même la crise. Hein.
Oui.
Et puis, alors, je suis désolée, on y arrive toujours. Le problème, c'est qu'en ce moment, le marché, on ne peut pas dire, les frémissements ne suffisent pas. Et donc, techniquement, on a quand même une situation assez problématique pour tout un tas d'entreprises qui sont en difficulté.
Oui. Alors, c'est toute la filière qui est touchée. Donc, on voyait les derniers chiffres, cabinet Altares, sur les faillites. Alors, il y avait toute une partie sur les agences immobilières. Il y en a plus de 900 qui ont fermé l'an dernier. Il y en a déjà quasiment 400 sur le premier trimestre 2024. Donc, le rythme s'accélère, ce qui correspond... problématiques de l'année dernière. On voit, et ça doit sans doute pas s'arrêter, on voit les plans sociaux avec l'annonce toute fraîche du plan social de 500 personnes chez Nexity. Bouygues, c'est 200 ou 300 personnes. Il y a eu Vinci Immobilier. Il y a les plans sociaux qui ne disent pas leur nom chez d'autres promoteurs. Du côté des constructeurs de maisons individuelles, c'est la suspension de cotation de AST Group. Ouais. Et on sait bien qu'il y a beaucoup de constructeurs qui sont à la peine. Il y a eu tous les départs non renouvelés, réduction de voilure. Toute la filière souffre. Et après, ce sont tous les métiers connexes. C'est valable pour les courtiers, c'est valable pour les diagnostiqueurs, c'est valable pour les notaires. Il y a quand même un pan économique qui est mal en point et on peut ne pas être très très optimiste sur 2024 non plus.
Bon, comme on est dans la partie un peu pagaie, on a parlé de la crise effectivement pour les professionnels, les entreprises du secteur. J'ai envie de dire que c'est aussi la crise dans les copros justement.
Plans sociaux, faillite, transition idéale.
Il y a aussi des copropriétés en faillite, hein, Olivier.
Ouais, alors c'est vrai que c'est un peu chiant de parler tout le temps de crise.
Ouais, un petit peu ennuyeux aussi. Vous pouvez rester poli même si c'est triste.
Bon, je ferai attention sur ma terminologie. Non, mais c'est vrai que c'est lourd parce que ça touche tout le monde. Et puis on a pas parlé des collectivités publiques, mais les départements, les communes.
Ah bah oui, moins de taxes foncières, moins de droits de mutation.
Pas de droits de mutation, voilà, il n'y a pas de revenus. Donc c'est vrai que ça impacte tout le monde. Et c'est pour ça que c'est assez difficile de ne pas avoir de mesures choc d'un coup qui nous permettent de changer la donne immédiatement parce que on est tous accrochés à ça. Et on dit toujours qu'en bâtiment va tout va, c'est vrai.
Mais là, ça va mal.
On va pas. Donc, dans les copros, comment ça se passe? Dans les copros, bien évidemment, on a une légère augmentation des impayés en copropriété.
C'est quoi le taux d'impayé?
Alors ça, c'est un vrai sujet. Il n'est pas énorme, le taux d'impayé.
Parce que c'est des retards de paiement de charges,
ce ne sont que des retards. On a un sujet avec le registre national des copropriétés qui nous donne des mesures, mais les mesures qui sont déclarées dans le registre des copropriétés, c'est qu'une situation comptable à date, et ces situations comptables qui sont des débits, sont en général réglées le mois qui suit. Donc en fait, il n'y a pas tant d'impayés que ça. Mais par contre, quand on se dit que 240 000 copropriétés sont au-delà de 25% d'impayés parce que c'est écrit dans le registre, tout de suite, on se dit c'est la catastrophe. Les copropriétés en difficulté.
Ça, c'est échelle nationale, ça?
Oui, mais c'est parce que c'est une vision comptable de l'esprit à un moment donné qui n'est pas du tout la
réalité. Oui, c'est en gros 25% en avril.
Dans un immeuble, vous recevez votre facture, ben, un mois après, elle est payée, il n'y a plus d'impayé. Il peut y avoir un peu de retard, c'est pas grave. La copropriété fait son recouvrement, enfin, on se débrouille. Mais il n'y a pas tant de copropriété que ça. Je tiens à dire quand même qu'il n'y a que 200 saisines de mandataires qui viennent accompagner, avant l'administration judiciaire, des copropriétés, 200 saisines par an. Il y a presque
200 cas vraiment tendus, quoi.
Sur presque 800 000 copropriétés, donc c'est pas non plus la catastrophe. Par contre, on constate comme en réalité, avec une augmentation des charges, notamment l'explosion des coûts de chauffage, qui a été limitée grâce au bouclier tarifaire, on note qu'il y a un peu plus de difficultés à assurer
plus le paiement des charges. Plus de retard quand même, voilà.
Et on a des augmentations avec l'inflation, on nous met du 6, 8, 10% sur certains contrats, donc à un moment donné, tout le monde tire la langue, et c'est vrai qu'il faut être vigilant quant au bon suivi de l'état financier de la copropriété, ce que font les professionnels, parce que je rappelle que la gestion des copropriétés, c'est 92% les immeubles, et c'est pour ça que dans le cadre de la loi Habitat dégradé, on a voulu faire comprendre au pouvoir public qu'il ne fallait pas mettre toutes les copropriétés sous des régimes de protection de copropriétés dégradées parce qu'elles ne sont pas du tout nécessairement en difficulté, contrairement à ce qu'on pourrait...
Olivier, à tout ça s'ajoutent aussi les enjeux de rénovation énergétique qu'on aborde au fil de l'eau depuis le début de l'émission, parce que ça reste en fond de sauce quand même, hein, mais ces obligations de rénovation énergétique dans les copros, elles existent aussi. Hein, ça aussi, est-ce que ça pourra être tenu compte tenu de la santé financière des copros aujourd'hui ?
Ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez du mal à payer vos charges, vous n'allez pas vous lancer dans un dispositif de rénovation énergétique. Donc, on peut pas dire aujourd'hui que les copropriétés sont impactées par les impayés parce qu'elles ont lancé des grosses opérations de rénovation. Parce qu'en réalité, ça a du mal à décoller, cette rénovation énergétique. Donc, oui, à force, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne veut pas trop assouplir les règles d'adoption des travaux de rénovation énergétique, c'est que si peu de copropriétaires arrivent à embarquer toute la copropriété, et si les copropriétaires n'ont pas les moyens financiers d'assumer cette rénovation énergétique, on va aller au carton, ça va être la catastrophe.
Donc, il faut faire quoi?
Il faut accompagner cette rénovation énergétique, structurer les financements avec les éco-prêts à taux zéro pour pouvoir accompagner le financement dans les immeubles. Il faut s'assurer que France Rénov et tous les dispositifs publics d'accompagnement se structurent correctement, que les entreprises soient là et qu'on y aille avec de la pédagogie dans un temps qui correspond au temps long de l'immobilier et de la copropriété, qui est plutôt sur 5-7 ans. La moyenne sur une rénovation énergétique, c'est 7 ans.
Là, Olivier...
C'est pas demain, au 1er janvier 2025.
Olivier est dans le rêve, donc poursuivons dans le rêve pour terminer cette émission, je vois.
Habile transition.
Merci.
C'est bien que vous ne présentiez pas toute cette émission, hein, parce que vos transitions sont quand même très douteuses.
Oh, bah non, quand même, là. Non, mais effectivement, je pense que effectivement, c'était sympa de terminer cette émission parce que forcément, on parle du marché locatif, de l'investissement, de la crise dans les copros, de la crise pour tout le business autour du logement et de l'immobilier. Je pense qu'effectivement, on va souffler un tout petit peu pour terminer et c'est grâce à Virginie. Parce que là, on va découvrir un truc de dingue que je ne pourrais jamais m'offrir.
Eh ben oui, mais comme beaucoup de Français d'ailleurs, et d'ailleurs ce ne sont pas des Français, en fait on a...
et d'ailleurs, c'est pas pour nous.
Si, si, non, mais ça pourrait, on peut tout imaginer. Simplement, on a donc décidé dans le dernier numéro de Challenge de faire un dossier immobilier qui porte plutôt sur le luxe, puisque ça reste quand même une niche qui marche mieux que le reste. Je dis pas que c'est la super forme non plus, hein, parce que tout a ralenti, le luxe aussi. Mais c'était simplement, vous avez eu il y a quelques mois, cette transaction record dans Paris, 35 millions d'euros pour un appartement sur le Champ de Mars de 669 mètres carrés. Il y a de la place.
Un petit appartement.
Le réseau John Taylor qui a conclu cette transaction.
On a le DPE ou pas, Virginie ?
Le DPE, il est nickel parce que en fait, c'est l'illustration des biens qui se vendent extrêmement bien aujourd'hui à Paris ou sur la Côte d'Azur ou dans les Alpes. Ce sont ce qu'on appelle les biens clés en main. Ce sont des appartements ou des immeubles ou des hôtels particuliers ou des chalets ou des villas, peu importe, qui sont repris par, en l'occurrence, c'est la Cogemad, c'est-à-dire une société dont c'est la spécialité, mais il y a des fonds d'investissement, il y a des family office, des sociétés qui prennent un actif, qui vont le rénover de fond en comble, qui vont le meubler, le décorer, donc le DPE n'est plus une question, hein, l'équiper. Vous avez toutes les technologies dernier cri qu'on peut imaginer.
C'est le bien sans défaut, quoi.
C'est le bien.
Et pardon, excusez-moi, c'est quoi le genre de technologie dont on peut rêver ?
Mais si, par exemple, vous avez envie d'avoir votre télé incrustée dans le miroir de la salle de bain, on va vous faire ça. Si
Évidemment.
Vous voulez des portes qui s'ouvrent quand vous voulez juste rentrer dans la cuisine et que par hasard vous avez les mains chargées, et ben elles s'ouvrent toutes seules. Enfin, on peut tout imaginer. C'est surtout un travail d'aménagement puisque ça correspond un peu à habiter un palace, c'est-à-dire vous avez, vous reprenez en gros les codes de l'hôtellerie de luxe, chambre en suite avec une grande salle de bain, dressing,
c'est
etc.
C'est ça qui fait un petit peu de monde dans 700 mètres carrés, quoi.
Il faut des choses. En l'occurrence, ce bien qui a été acheté par des acquéreurs chinois, vous avez 600, à peu près 600 mètres carrés de plein pied, ce qui est très très rare dans Paris. Vous avez une vue évidemment de Tour Eiffel.
Évidemment.
Mais oui, vous avez plus de 5 mètres de hauteur sous plafond. Enfin,
C'est intéressant ce que vous dites, parce que 669 mètres carrés de plein pied, ça veut dire que c'est probablement un bien qui s'est emprunté, j'allais dire, sur plusieurs immeubles. Enfin, mais je ne comprends même pas comment c'est possible.
Mais en fait, alors après, il y a un système de mezzanine, donc je n'ai plus la surface exacte de plein pied, mais elle est comme vous avez 5,50 m de hauteur sous plafond, vous pouvez créer des petits aménagements supplémentaires.
Petite hauteur sous plafond.
Voilà. Mais toujours est-il que ces biens clés en main, ils sont extrêmement rares et extrêmement demandés parce que les emplacements sont rarissimes. Et donc, vous avez effectivement juste quelques immeubles qui sont disponibles. Vous avez forcément une vue sur quelque chose de très parisien. Donc, en l'occurrence, c'est la Tour Eiffel quand vous êtes au Champ de Mars. Mais vous pouvez avoir, quand on voit la vente de l'appartement de la Gerfeld aux enchères il y a quelques semaines, 10 millions d'euros parce que vous avez une vue Louvre et Seine. Vous êtes sur les quais. Bon, mais ça, c'est unique. Vous aimez l'appartement ou pas, entre guillemets, et la décoration qui restait des aménagements de Karl Lagerfeld. Mais cette vue-là, personne ne l'a.
Mais du coup, qui l'a acheté, Virginie? Parce que on se doute que c'est peut-être Olivier, mais...
Non. Il n'y a pas grand monde qui veut s'acheter.
Non, je n'ai pas encore réussi à savoir, mais on finira bien par le savoir.
35 millions d'euros.
Là, ce bien, c'est son... il faut voir que Paris ou la Côte d'Azur conservent toute leur attractivité en termes de trophy asset, c'est cette volonté d'avoir des biens exceptionnels. Et donc, tout est exceptionnel. L'aménagement, les services associés, etc., etc. Décoration, meubles, tout ce que vous voulez. Il y avait le piano inclus dedans.
Évidemment.
Normal,
j'imagine. Un appartement de 669 mètres carrés vendu sur le Champ de Mars, en plein cœur du 7e, en face de la Tour Eiffel, dans le centre de Paris. Ça fait du 50-52 millions du mètre carré.
C'est ça.
Et bon calcul. En maths, vraiment.
Mais oui.
Je suis journaliste économique. Vous aussi, Marie.
Oui, mais alors moi.
Cet immobilier de luxe, très sérieusement, nous en reparlerons lundi. Marie, on sera avec la maison Sotheby's.
Exactement, avec Alexander Kraft, et on pourra faire un petit point sur ce marché, effectivement, qui résiste mieux que les autres, mais effectivement, qui quand même subit lui aussi la crise.
Oui, et à l'image du secteur du luxe en bourse, il y a plusieurs immobiliers de luxe.
Oui,
il y a le luxe, et le luxe.
Il y a le mini-luxe.
C'est ça. La différence, peut-être, la barre autour de 1,5 million, notamment sur le marché parisien. Merci à tous les trois. Merci à notre consoeur Virginie de Challenge. Merci à vous, Marie Cœur de Roy. Et merci à Olivier et l'équipe de FNAIM Grand Paris pour cet éclairage. À retrouver en podcast et en replay, comme l'ensemble de nos séquences immobilières, sur l'application et le site BFM Business. Il nous reste quelques minutes d'émission en ce vendredi pour aborder le sujet des matières premières. Vous savez, on parlera du pétrole, du cuivre, mais aussi de l'argent. Ces métaux essentiels pour le cuivre et l'argent à la transition énergétique et qui flambe. À tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business.
Et le point sur les matières premières pour finir cette semaine avec Benjamin Louvet. Bonjour Benjamin.
Ça commence.
Oui, ça commence. Bonjour Benjamin.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes le directeur des gestions matières premières chez Ophi Invest AM avec nous sur un magnifique fonds. Merci de nous rejoindre pour faire le point sur cette semaine complexe. On va zoomer sur quelques matières premières avec vous. On va parler pétrole, on va parler cuivre, on va parler argent. En sous-jacent, on parlera de transition énergétique. Démarrons avec le pétrole, si vous voulez bien, Benjamin. Que retenir de la semaine avec pour l'or noir?
On a, Lorraine, sur l'or noir, une situation un peu stable, de façon surprenante, parce qu'effectivement, avec tout ce qui se passe au niveau géopolitique, on aurait pu s'attendre, beaucoup de gens s'attendaient à une flambée des cours du pétrole, mais on est dans une situation un peu particulière aujourd'hui. La première raison de cette relative stabilité, c'est qu'en réalité, avec les banques centrales qui ont décidé de prendre un petit peu de temps pour ajuster leur politique monétaire, on a une certaine incertitude sur le comportement économique à venir dans la deuxième partie de l'année et donc sur l'évolution de la consommation pétrolière. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour l'instant, même si on a eu un certain stress d'un point de vue géopolitique, on a réussi à contenir la situation, à éviter un embrasement. Mmh. Mais surtout, la troisième chose, Lorraine, qui rend le marché relativement confortable aujourd'hui, c'est que on a des pays de l'OPEP et des pays alignés avec l'OPEP, ce qu'on appelle l'OPEP+, qui ont décidé d'une réduction de leur production depuis maintenant la fin de l'année 2022, de, au total, un peu plus de 3 millions de barils par jour. Et donc, si on devait avoir à un moment un manque de pétrole à court terme, on sait que l'Arabie Saoudite et les pays de l'OPEP et les pays alignés avec l'OPEP, et notamment la Russie, pourraient remettre du pétrole sur le marché et donc assurer un flux continu de pétrole. Ça rassure suffisamment les marchés pour que le prix du pétrole se stabilise. Et aujourd'hui, nous, chez OFI Invest Asset Management, on ne voit pas le prix du pétrole sortir à court terme d'une fourchette comprise entre 85 et 95 dollars le baril.
Ouais.
Fourchette dans laquelle on évolue maintenant depuis un certain temps.
Ouais, le Brent est, alors on se parle autour de 88 dollars. Le WTI est autour de 83. On le voit, c'est cours du pétrole qui reste, si je peux me permettre ce terme, Benjamin, abordable. Hein. Mais ça questionne quand même quand on voit la production américaine qui a énormément progressé depuis un an, au-delà des 13 millions de barils par jour et des stocks qui continuent de diminuer. Une projection pour nous, Européens, qu'est-ce qu'on peut... Pardon d'être binaire, est-ce qu'on peut être rassuré ou il faut être inquiet?
Alors, la production pétrolière américaine a progressé effectivement assez fortement dans la reprise post-Covid. Aujourd'hui, on arrive à un moment où même l'Agence américaine de l'énergie ne s'attend pas à une progression faramineuse de la production de pétrole aux États-Unis. On attend une relative stabilité, ce qui est particulièrement problématique, enfin pas problématique à court terme, mais qui pose question pour le moyen terme, parce que je vous rappelle que d'après l'Agence internationale à l'énergie, le pic de production sur le pétrole conventionnel a été dépassé en 2008. Mmh. Donc depuis 2008, ça veut dire qu'on tient notre hausse de consommation grâce au développement des pétroles non conventionnels et notamment du pétrole de schiste américain principalement. Mmh. Si ce pétrole arrive un peu à son maximum, eh bien on va commencer à se retrouver dans une situation où on a sacrément intérêt à accélérer la transition énergétique, parce que sinon on va se retrouver dans une situation où on aura une hausse de la consommation et plus de moyens d'augmenter notre production, et là on pourrait voir les prix du pétrole beaucoup monté, donc il y a vraiment urgence à accélérer sur notre transition énergétique.
Mais oui, parce que la bonne dynamique manufacturière est un des facteurs qui explique évidemment la poussée de l'or. On va pas débattre sur est-ce que Total Energy devrait aller se coter à New York plutôt que Paris, mais vous avez peut-être vu un article de Bloomberg qui est sorti ce matin, dans lequel Patrick Pouyanné dit réfléchir à une cotation plutôt à New York plutôt qu'en France, parce que justement, à New York, on est un peu moins obsédé par la transition énergétique. Visiblement, je reprends ses propos, un petit peu paraphrasé d'un article de Bloomberg paru ce matin. Justement, cette transition énergétique sur laquelle on essaye d'accélérer en Europe, elle se fait aussi avec d'autres matières premières dont le prix flambe. On va s'arrêter avec vous pendant quelques minutes sur le cuivre. Le cuivre, on est autour de 9800 dollars la tonne, c'est correct ?
On est même un peu plus haut que ça ce matin, Lorraine. On a dépassé les 10 000 dollars la tonne ce matin, et là on tourne autour des 10 000. Donc il y a une forte poussée du prix du cuivre effectivement ces dernières semaines.
En préparant cette séquence avec vous, Benjamin, on évoquait une patronne de BlackRock, l'équipe, on va dire, en charge des matières premières, métaux premiers, qui envisageait une tonne à 12 000 dollars. Ce serait un bond de 20% par rapport au sommet de cette semaine, parce qu'il faudrait pouvoir encourager les investissements à grande échelle dans cette mine. Le problème, c'est d'un côté la demande et de l'autre les infrastructures, les investissements qui n'ont pas forcément été fait pour répondre à cette demande?
Bien sûr. L'exemple du cuivre est très parlant, Lorraine. Okay. L'Agence internationale à l'énergie, donc, qui est l'organisme qui conseille les pays de l'OCDE dans leur politique énergétique, évoquait dans un rapport il y a peu de temps le fait qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a à peu près 250 mines de cuivre opérationnelles. Et si vous prenez la taille moyenne de ces 250 mines de cuivre, l'Agence internationale à l'énergie estime que pour réaliser la transition énergétique, il faudrait rajouter 80 mines de cuivre supplémentaires. Le problème, Lorraine, c'est que dans le domaine des matières premières, eh bien, entre le moment où vous décidez d'ouvrir une mine et le moment où cette mine est opérationnelle, en moyenne, dans le monde, il se passe 17 ans, c'est 17 ce que dit l'Agence internationale de l'énergie. Donc les ajustements ne se font pas facilement. Donc en gros, l'Agence internationale de l'énergie dit si on veut être en temps et en heure avec la bonne production de cuivre pour faire face à la transition énergétique, il faudrait que ces 80 mines de cuivre soient sanctionnées par une décision d'investissement avant 2025. Problème, Lorraine, aujourd'hui, il y a moins de 10 projets sérieux de mines de cuivre qui sont à l'étude dans le monde. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver effectivement avec probablement un moment où on n'aura pas assez d'offres pour répondre à la demande générée par cette transition énergétique. Or, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas consommer un métal que vous n'avez pas. Donc, il va falloir inciter les producteurs à produire davantage. C'est là que cette analyse de chez BlackRock parle de $12,000 la tonne comme prix minimum pour inciter les compagnies minières à réinvestir. Certains, comme Robert Friedland, le patron d'Ivanhoe Mining, un des plus grands du secteur du minier cuprifère, évoque un prix nécessaire de $15,000 la tonne. Et d'autres analystes, comme Citi, évoquent le prix de $15,000 la tonne dans un futur assez court de 18 à 24 mois. Donc on est clairement sur un métal rouge chauffé à blanc.
De 10 mines en opération à 80 mines, l'objectif quasiment irréaliste. Le cuivre nous amène à toucher un mot d'argent pour conclure, Benjamin. L'argent et le cuivre qui sont des métaux essentiels des voitures électriques et des panneaux solaires. Industrie inexistante il y a encore quoi, 15 ans. Aujourd'hui, c'est 35% de la consommation de ces métaux. Racontez-nous ce que fait l'argent et pourquoi ça nous concerne ultimement, nous, en tant qu'investisseurs particuliers.
Bah, l'argent, vous le disiez, Lorraine, c'est le métal qui conduit le mieux l'électricité au monde. Et donc, pour cette raison-là, on l'utilise dans plein d'utilisations industrielles et notamment dans les technologies bas carbone pour la transition énergétique. Donc, on l'utilise dans les voitures électriques, on l'utilise également dans les panneaux solaires. Et même s'il en faut une toute petite quantité, eh bien, vu la quantité de panneaux solaires qu'on installe, vu le nombre de voitures électriques qu'on doit produire, eh bien, vous le disiez, on est passé de 0% de consommation pour ces deux secteurs il y a 15 ans à un peu plus d'un tiers que prévu pour cette année 2024. Donc, et ça va continuer. Pourquoi ? Parce que les panneaux solaires qu'on a installés cette année, on en a installé à peu près la moitié de ce qu'il faudrait installer chaque année si on veut respecter l'accord de Paris. Et il faudrait multiplier par 6 les ventes de voitures électriques si on veut respecter cet accord de Paris. Donc ça veut dire que cette demande d'argent, elle va continuer à augmenter. Et c'est pareil pour le cuivre. Il faut entre 950 kg et 5 tonnes de cuivre dans une éolienne. Il faut 4 fois plus de cuivre dans une voiture électrique que dans une voiture thermique. Donc on sait que ça va entraîner une demande et probablement une tendance haussière très long terme sur ces métaux. Et donc il y a peut-être là un moyen pour les investisseurs de jouer la thématique de la transition énergétique autrement. Alors on ne finance pas la transition énergétique, mais si la transition énergétique est un succès, le prix de ces métaux devrait s'apprécier. Et en tant qu'investisseur, eh bien, il y a peut-être aujourd'hui une bonne opportunité d'en profiter.
Voilà, en tant qu'investisseur, s'engager aussi dans cette transition à travers ces matières premières. Merci beaucoup Benjamin Louvet de l'équipe d'OFI Invest AM, directeur des gestions de matières premières, avec nous dans Tout pour Investir. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur l'application et le site BFM Business. C'est la fin de l'émission. Merci à toute l'équipe pour sa préparation. Merci à vous toutes et tous pour vos messages. Nous serons là dès lundi au rendez-vous à 10h. Nous parlerons crowdfunding. Le crowdfunding, en fait, c'est 10 ans, ce que ça signifie pour nous en tant qu'investisseurs particuliers. Réponse lundi. On fera également le point sur l'immobilier de prestige avec l'équipe Sotheby's International. L'immobilier de prestige qui ne connaît pas la crise. Au programme de la journée sur BFM Business, vous retrouverez Marc Fiorentino et toute l'équipe de C'est votre argent dès 20h pour un nouvel épisode, mais aussi à n'importe quelle heure du jour et la nuit en podcast. Et avant ça, d'ici quoi, 4 minutes, Sofiane Aklouf prend les manettes avec vous. Quel est le programme, chère Sofiane ?
Bonjour Lorraine. Eh bien, au programme, imaginez Lorraine que vous preniez un nouveau poste lundi, vous changez de crèmerie. Comment bien vous faire accepter par vos nouveaux collaborateurs ? Si jamais vous avez une nouvelle équipe à manager, eh bien, tous les conseils de nos experts pour se faire bien accepter dans votre boîte, dans un instant, dans Avec Vous.
On parle intégration au bureau dans Avec Vous. Vous avez des questions, l'adresse est avecvous@bfmbusiness.fr. N'hésitez pas, nous sommes connectés, notamment sur les réseaux sociaux, pour ce live, la libre antenne de l'économie. C'est tout de suite sur BFM Business. Bonne écoute.
Tout pour investir sur BFM Business.